This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوب دي.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
برازيل. كاسي كيلو.
تركيا فوتورا. سلاما. روسيا.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en mer Méditerranée avec Éric Valmire, avec une self-made woman au micro de Dominique André. La revue de presse internationale du vendredi, ce soir à Berlin et au fin fond de l'Iowa. Une histoire dans le monde, c'est le rendez-vous d'Anthony Bélanger sur le cannabis tout à l'heure à 18h55. Mais pour commencer, le vaste, le très vaste monde du photographe Sebastião Salgado.
France Inter. Un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Wim Wenders et Giuliano Ribeiro Salgado lui consacrent un film sorti mercredi dernier. Il s'intitule « Le sel de la terre ». On peut dire de ce film qu'il est une biographie filmée de l'œuvre de Salgado, un exercice d'admiration, peut-être la psychanalyse d'un fils, un formidable documentaire sur le métier de photographe et de photoreporter, et sans doute tout cela en même temps. En parallèle à ce film sort chez Ta Chaîne l'un de ces énormes livres qui ont fait la marque de Salgado. Il s'intitule lui Genesis et comme dans la Bible, c'est le projet de photographier le ciel et la terre, la nature tout entière, plus quelques hommes. Bonsoir Sebastião Salgado.
Bonsoir.
Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être avec nous ce soir sur France Inter. En voyant le film de Wenders et de votre fils, je me suis dit tout simplement quelle belle vie est la sienne, quelle belle vie au sens philosophique du terme, une vie utile, au service des autres, une vie pour informer, une vie pour ne pas se laisser terrasser en silence par les malheurs du monde. On vous voit dans le film et vous semblez serein. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. Et je trouve que la vie des photographes de reportage, c'est vraiment un énorme privilège. Ça permet, pendant les bouts du temps, qu'il vit, le photographe, qu'il vit actif, d'être sous le haut de la vague des moments historiques qu'on est en train de vivre. On a une participation vraiment profonde, parce que les textes, on peut avoir l'information pour les faire, mais l'image, il faut les faire, il faut y aller, il faut participer.
Il faut être là.
Il faut être là. Si on n'est pas là, on ne l'a pas. Et donc, il faut participer, il faut avoir toutes les émotions, il faut donner, il faut recevoir. Quelquefois, on prend des charges très dures parce qu'on vit des moments très difficiles, on vit des moments colossaux. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est un grand privilège de pouvoir être un reporter photographe.
Et est-ce que vous êtes serein aujourd'hui ?
Je crois que oui. Je crois que.
On vous sent reposé dans le film.
Mais en réalité, j'ai l'impression que j'étais très reposé dans toute ma vie. Parce que c'est un métier qu'il faut savoir attendre. Il faut y aller pour longtemps. Toutes ces histoires, j'ai mis du temps à les faire. Quelquefois, les gens m'ont dit que j'étais un reporter photographe, que j'étais un photographe économiste, parce qu'avant, j'avais été économiste, un photographe anthropologue, un photographe engagé. Ce n'est pas vraiment tout ça. Photographie, c'est une façon de vivre. C'était ma vie. Ce que j'ai pensé, ce que j'ai eu comme questionnement à moi-même, de ma société, toutes mes références éthiques, esthétiques, mon passé, n'est-ce pas, mes philosophies de vie, tout ça, tout seul, dans la planète, avec tout ce qui se passait autour de moi.
On pourra dire de vous, Sebastião Salgado, si on devait vous résumer d'une phrase, il aura toujours été là.
Oui, j'étais là, là où je peux plus y aller, où ça m'a motivé d'y aller, n'est-ce pas ? Où j'étais demandé d'y aller aussi, parce que j'ai travaillé énormément pour la presse. Et donc, oui, j'étais là.
Comment avez-vous été happé par l'Afrique ?
L'Afrique, c'est un continent très proche de nous, les Brésiliens. Il y a juste 150 millions d'années, et ça, en archéologie, ce n'est rien, on était tous un seul continent, l'Antarctique, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Ce qu'il y a des végétaux, ça ressemble énormément à ce qu'il y a au Brésil. En Afrique, en 150 millions d'années, ça n'a pas modifié énormément. Les minéraux sont exactement les mêmes. Et en plus, la contribution africaine à notre composante raciale au Brésil est énorme. On a eu le plus grand contingent d'immigrés forcés, parce que c'était des esclaves qui ont venu au Brésil, n'est-ce pas ? C'était les Africains. Et donc, ça nous a fait ce qu'on est. On est très Afrique dans notre manière de vivre, de penser, de s'alimenter, de chanter, de comporter. Et donc, l'Afrique, pour moi, c'est un continent tout à fait à part. Pour moi, c'est le plus intéressant de tous les continents.
D'où le fait que toute la première partie de votre vie de photographe se déroule là-bas.
C'est ça. J'ai commencé mes premiers reportages, j'étais en Afrique, j'avais une curiosité énorme de revenir, Et j'ai pu me dédier énormément à l'Afrique. Je connais pratiquement toute l'Afrique et je retournerai toujours.
Vous y allez encore maintenant ?
Ah oui, j'ai été en Afrique il y a un mois et demi. J'étais en Tanzanie, je prépare un livre, un travail sur le café. Et donc, je travaille un peu partout au monde. Et là, je deviens de faire les cafés de montagne de Tanzanie, qui sont les meilleurs cafés du monde. Et donc, j'ai eu le privilège d'être là au mois de juillet.
Et alors, est-ce que c'est... Ça, c'est en tout cas ce que montre bien le film. L'ancien économiste que vous êtes, celui dont le père voulait absolument que son fils ait un travail sérieux, avocat, dit-il, votre père, dans le film. Est-ce que c'est donc cette première casquette d'économiste avant le hasard qui vous met un appareil photo entre les mains qui fait que vous vous êtes intéressé, dans une autre partie de votre vie et de votre travail, à la main de l'homme, la main de l'homme qui travaille, la main de l'homme qui fabrique?
Oui, une partie oui. Une autre partie, je viens d'un pays qui aujourd'hui c'est un pays en voie de développement, presque développé, mais qui pendant ma jeunesse, c'était un pays sous-développé avec des problèmes économiques brutaux. Donc ma formation d'économiste, après que je suis venu en France, on ne pouvait pas rester au Brésil avec ma femme pour des problèmes politiques à l'époque d'une dictature brutale. Toute la militance qu'on a eue en France, toutes les études qu'on a pu faire ici, nous a mené vers une photographie nécessairement humaine et sociale. Et donc, bien sûr, que les outils que j'ai appris dans l'économie, les analyses, l'analyse macroéconomique, les comptes nationaux, les finances publiques, à la fin, l'économie, comme je l'ai étudié, n'est-ce pas ? L'économie politique, c'est de la sociologie quantifiée. Et donc, tout ça m'a aidé énormément dans mon approche, dans mon analyse, dans ma capacité de synthèse. Et donc, oui, j'ai compté beaucoup dessus. Ouais. Quoi.
Quand vous dites photographie sociale, vous pourriez le définir comment exactement ?
La photographie des êtres humains, n'est-ce pas ? Le social, pour nous, c'est nous, notre espèce. Et donc, c'est ça. Et ça m'intéressait toujours. Et tout cette, comme je viens du Sud, n'est-ce pas, toute cette espèce d'injustice sociale qui s'est passée dans le monde. Et donc, je suis allé voir, je suis allé montrer, je suis allé vivre avec les gens pour donner à voir qu'il y en a quand même un monde aussi digne que celui-ci, n'est-ce pas, aussi travailleur que celui-ci, aussi méritant que celui-ci, n'est-ce pas, sans pour autant mettre des problèmes de conscience aux gens, de mettre les gens en défensif, en essayant de faire à travers ces photographies qu'on comprenne qu'on a un être humain aussi semblable que le nôtre de l'autre côté et qu'il faut, d'une certaine manière, les comprendre et que ces photographies soient des photographies des partages. Je n'ai jamais fait ces photographies tout seul. J'ai toujours travaillé avec des institutions, des organisations françaises, beaucoup, étrangères, anglaises, norvégiennes, allemandes, les Nations Unies. Et donc, toujours, j'étais avec ces institutions et ces photographies étaient toujours utilisées en première instance par ces organisations. Mais c'était photographie de notre processus de vie.
On vous voit tout au long du film de Wenders, Sébastien Salgado, dans les crises les plus graves de l'Afrique, aux côtés des organisations humanitaires, des organisations non gouvernementales. On voit que vous avez, au fil des ans, acquis un savoir très important sur ce qu'est une crise humanitaire, la manière dont elle se déroule, la manière dont agissent ou réagissent les peuples quand ils sont confrontés à une famine, par exemple. Tout cela est parfaitement décrit. Mais j'aimerais en venir au Rwanda. J'ai le sentiment que quelque chose de vous est mort au Rwanda.
Oui, j'ai vécu un moment très difficile dans ma vie au Rwanda. J'ai vécu un moment de perdre complètement l'espoir pour nous, pour notre espèce, n'est-ce pas ? J'étais dans ma communauté de humains, et de voir la férocité qu'on a dans nous, n'est-ce pas ? L'agressivité, et la brutalité totale de nous pour, vers nous-mêmes, vers nos communautés, à tel point qu'à un moment, j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps. Et c'était un moment que j'ai dit me retirer vraiment. Je m'éloignais d'ici. J'ai retourné au Brésil, dans les plus profonds. Et j'ai passé des temps là-bas pour me refaire un peu. Parce que ce que je vis là-bas, c'était pas facile.
Oui, parce que l'impression que donne le film, en tout cas, c'est la manière dont le film le raconte, c'est que le fait de voir le génocide, le fait de voir les conséquences du génocide rwandais, au fond, vous détourne des hommes et vous arrêtez de les photographier à ce moment-là.
C'est juste. Je m'éloignais beaucoup. Et je voyais, quand les images arrivaient ici, en Europe, il y a eu beaucoup de questionnements, pas seulement à propos de mes images, mais des images qui étaient faites par des gens qui n'étaient pas là-bas, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas participé. Et au contraire, tous les gens qui étaient là-bas croyaient que toutes ces images devaient être vues pour tout le monde, absolument tout le monde, pour que ça n'arrive plus. Parce que c'était tellement terrible, tellement immoral, tellement violent, n'est-ce pas ? Et en arrivant ici, les images étaient d'une certaine façon rejetées, parce qu'on ne voulait pas les voir, on ne voulait pas les sentir. Donc c'était des moments qui on rentre en crise, n'est-ce pas ? Avec soi-même, avec sa société, avec son entour. Et c'était pas facile, c'était vraiment des moments très difficiles. Vous savez, c'était pas facile de voir 15 000, 20 000 personnes mourir par jour, d'être enterrées par un bulldozer, parce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire, des montagnes de morts. Et pire que tout ça, de voir les gens qui sont en train de vivre autour de la mort s'adapter à la mort. Ils croyaient que la mort, c'est tout à fait naturel, que la violence, c'est ça. Et à la fin, quand on vit dans des moments comme ça, on a l'impression qui est la grande intelligence de l'espèce humaine, c'est sa capacité d'adaptation. Et on s'adapte à n'importe quel processus. Même les plus négatifs, les plus violents, commencent à être notre façon de vivre. J'ai vu une image terrible au Congo d'un père qui vient avec son enfant mort dans les bras, en train de parler à son ami, discutant. Il arrive sur la montagne des morts, parce que c'était des piles énormes de morts, jette son enfant, il part avec un cercle de copains, discuter, rigoler. Ce n'est pas qu'il était un père pur que les autres, c'est qu'il était complètement adapté à ce processus de dégradation qu'il lance à ce terrible.
Je vous repose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort en vous, là-bas ?
Pour ce moment, oui, mais vous savez, rien est mort pour toujours. Tous les processus, ils se refont, se reconstituent. Et à un moment, oui, je ne croyais plus à rien. Je trouvais qu'on était une espèce programmée et que peut-être notre vérité, ce n'était pas la base des philosophies platoniques, la base des philosophies socratiennes, ce n'est pas la base des christianismes, mais en aux autres comme je vous aimais. Peut-être que notre réalité, c'était d'avoir chacun une arme à la main et se détruire, surtout détruire, parce qu'en regardant tout ça, je ne croyais plus. Mais en me retirant au Brésil, c'était un moment où mes parents avaient devenu assez vieux. Et on avait une ferme, la ferme qu'on a grandi dans cette ferme, que c'était un vrai paradis qu'on a, quand j'étais gosse. Ferme énorme, elle fait une dizaine de kilomètres de long. Elle avait plus de 50% des forêts tropicales. Et quand on a réussi cette terre, elles avaient moins d'un demi% des forêts tropicales. Tout dans cette ferme était détruit.
Dévasté par la sécheresse.
Dévasté par le nouveau modèle économique. L'élevage extensif, la monoculture, et les changements de modèle. À la fin, ce n'était pas seulement la ferme de mon père, c'était toutes les fermes de ma région. Notre vallée, c'est une vallée aussi grande que le Portugal. Tout détruit. Et là, on reçoit cette terre. Et ma femme a une idée brillante. Elle a dit, écoute Sébastien, tu m'as dit que tu as grandi dans un paradis. Pourquoi on ne replante pas la forêt qui était ici? C'était un grand défi parce qu'on a fait avec un ami ingénieur des forêts, les calculs. Pour récupérer cette terre, il fallait planter plus de 2 500 000 arbres. Il fallait les faire. Et on commence. Et en reconstruisant cette terre détruite, reconstruisant cette nature, en regardant retourner les arbres, les insectes, les oiseaux, l'eau, tous les animaux, toute la vie, vraiment,
vous
la
êtes
vie est revenue dans moi. J'étais refait, vraiment refait. Et c'était un moment très, très important. J'ai eu une proposition à ce moment des Nations Unies, de l'UNICEF et de l'Organisation Mondiale de la Santé, de faire un livre sur la fin de la poliomyélite. Je faisais un peu ce projet et assistais notre projet au Brésil. On travaillait sur ce projet. Et c'était un moment très, très intéressant de ma vie parce que, écoute, il y a une énorme conquête qui s'est passée à la planète. C'était l'élimination de la poliomyélite. Un pays comme l'Inde, où il y en a une vingtaine d'années, on arrivait à voir 300 000 personnes atteintes encore par la poliomyélite. Aujourd'hui, on a moins de 7 cas. Et quand une personne est atteinte pour la poliomyélite, elle est vraiment atteinte. C'est quelque chose d'énorme. Et en travaillant sur ce projet, en travaillant sur notre projet au Brésil, c'est revenu. J'ai cru. Et donc, j'ai pu partir sur ce nouveau projet qui s'appelle Genesis.
Et dont on a le livre chez ta chaîne qui est une merveille. Dernière question, vous avez envie de quoi aujourd'hui? De regarder vos arbres pousser à nouveau, devenir plus fort?
Écoute, on regarde les arbres pousser, on est là, suivant. Mais je travaille aussi sur un nouveau projet, sur les mouvements indigènes au Brésil. Je travaille avec plusieurs tribus, j'ai commencé déjà l'année dernière ce travail après Genesis. Et cette année, j'ai travaillé. L'année prochaine, je dois aller un peu plus fort. Je travaille avec la Fondation nationale des Indiens au Brésil et avec Survive International à Londres. Et il faut donner à voir cette culture, le respect pour ces Indiens. Et c'est peut-être la principale composante de nous, Brésiliens. Quand les Portugais sont venus, ils ne sont pas venus avec les femmes. Ça ne vit que des hommes. Pendant des dizaines d'années, la matrice, la base du Brésil, c'était le mélange des Portugais avec des Indiennes. C'est après qu'est venu les Africains qui sont mélangés là-dedans aussi. Et on ne respecte pas autant ces Indiens qu'on devait les respecter au Brésil. Donc on prépare un travail pour le Brésil. Et j'espère pouvoir faire un livre, une série d'expositions, un travail avec d'informations.
On l'espère aussi. Merci infiniment. Sébastien Salgado, je vais réussir à le dire, c'est Sebastião Salgado.
Non, c'est Sébastien.
Voilà, j'essaye de le dire bien et voilà, je me suis planté à chaque fois. Le sel de la terre, film en salle depuis mercredi dernier. Genesis chez ta chaîne, disponible en librairie. Encore merci d'être passé par ce studio à France Inter. À suivre, Rome et l'Iowa pour la revue de presse internationale du vendredi. Et tout de suite, Pharrell Williams.
Un jour dans le monde, Nicolas Demorand sur France Inter.
Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me while trying to fight it. Just like a kite, you learn to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there who ushers in the air I need to power myself. Run
that electrified mother, she other. Can I stow away? Colorful winds of the northern sky. It's the closest thing. And here is why. Cause for color, you blow me away.
Pharrell Williams sur France Inter avec les Daft Punk, 18h37.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Franck Metron, France Inter.
Bonsoir Frédéric Carbone.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir Sébastien Eugénie, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
Et comme tous les vendredis, donc, c'est la revue de presse internationale concoctée par les correspondants de France Inter aux quatre coins du monde. Avant de rejoindre Frédéric Carbone dans l'Iowa aux États-Unis, Cyril Sauvageau à Berlin. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Et c'est une grève, Cyril, la grève des conducteurs de train qui fait jaser chez vous et qui se trouve à la une de toute la presse.
Et cette grève, elle a un nom et un visage à la une des journaux. Klaus Weselski, le patron de la GDL, le syndicat des conducteurs de train. La presse l'a surnommé Chaos Klaus parce que le mouvement de grève qu'il vient de déclencher va semer la pagaille dans les gares ce week-end. Une grève surprise annoncée ce matin au moment où débutent les vacances scolaires pour la moitié de l'Allemagne. Une décision scandaleuse et égoïste, écrit le Berliner Zeitung. Le quotidien économique Handelsblatt rappelle de son côté que le conflit est d'abord un affrontement au sein même de la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemand, entre plusieurs syndicats qui se disputent les faveurs des cheminots. La GDL est devenue folle, titrait ce matin le journal conservateur Die Welt. Il faut dire que ce genre de grève est inhabituel en Allemagne, où syndicats et direction ont plutôt la culture du compromis. Résultat, eh ben on découvre dans la presse des choses inhabituelles aussi. On se dit qu'on verrait peut-être pas ça en France pendant une grève de la SNCF. Des journaux, par exemple, qui partagent des offres pas chères pour prendre le bus ou prendre l'avion à la place du train. Des appels à témoignages de voyageurs, comme ce hashtag sur Twitter « Wohin nicht ?» Racontez-nous où vous ne pourrez pas aller ce week-end. Une internaute répond qu'elle a choisi le meilleur week-end pour partir en France, au moment même où les conducteurs de train allemands se comportent, dit-elle, comme des Français.
Également dans la presse allemande, Cyril, les 25 ans de la chute du mur de Berlin, à l'approche de la date anniversaire elle-même, le 9 novembre, les journaux y vont tous de leurs dossiers spéciaux et on y trouve quelques pépites, je crois.
Oui, bah dans le Spiegel, par exemple, le projet Bye Bye DDR, une série de récits d'un journaliste allemand de l'Est, Peter Wesierski. Il a vécu de l'intérieur les années 60-70, les rébellions souterraines des opposants au régime communiste. Et il les raconte dans une série de papiers passionnants et drôles, comme ce jour de 87, où des milliers d'Allemands de l'Est se sont massés près du mur, porte de Brandebourg, dans l'espoir d'entendre un concert de David Bowie qui avait lieu côté ouest. Mais la police est-allemande veillait et tout le monde s'est fait renvoyer à la maison. En parlant de David Bowie, à lire cette fois sur le blog Slow Travel Berlin, l'histoire des studios Hansa à Berlin-Ouest. C'est là que, à l'époque du mur, plusieurs albums mythiques de l'histoire du rock ont été enregistrés, notamment les disques d'Iggy Pop, de Nick Cave et bien sûr la fameuse trilogie berlinoise de Bowie. Enfin, je vous conseille un très beau diaporama sur le site du Frankfurter Allgemeine, une série de photos juxtaposées. On voit des lieux de Berlin en 89 et aujourd'hui. Côté gauche, les photos noires et blancs et côté droit, l'équivalent 25 ans plus tard avec exactement les mêmes endroits, les cours d'immeubles, les jardins, les coins d'avenue et on mesure à quel point cette ville s'est transformée, rénovée, reconstruite entièrement et on peut, c'est très amusant, déplacer le curseur avec la souris vers la gauche ou vers la droite pour découvrir entièrement la photo d'hier ou celle d'aujourd'hui.
Cyril Sauvageau, merci, correspondant de France Inter à Berlin. Direction maintenant les États-Unis. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
Alors à moins de trois semaines des midterms, les élections de mi-mandat, l'enjeu essentiel est de savoir si le Sénat va passer dans le camp républicain. Grand absent de la campagne, Barack Obama, Mr. President. Les candidats démocrates lui demandent de rester sur le banc de touche, titré d'ailleurs récemment le New York Times. Et c'est ce que vous avez constaté là où vous vous trouvez en ce moment même dans l'État de l'Iowa.
Eh oui, effectivement, et pourtant, il aurait eu toutes les raisons, Barack Obama, de venir dans l'Iowa dans cette campagne. C'est un siège démocrate très menacé, un État clé dans ces élections. Il a gagné en 2008 et en 2012 lors de la présidentielle. Il a gagné l'État de l'Iowa. Et puis, bon, tout le monde s'en souvient, c'était un peu la découverte d'Obama, la confirmation en tout cas qu'il pouvait être président. Les primaires ici, face à Hillary Clinton, eh bien non, pas de Barack Obama. Sa femme, Michelle, est passée il y a quelques jours. Elle a d'ailleurs écorché dans un meeting le nom du candidat démocrate. Et vous comprenez mieux pourquoi cette absence quand vous rencontrez des responsables dans cet État très rural, au cœur des grandes plaines américaines, mais qui se flattent d'avoir quand même inventé l'ordinateur. Par exemple, son ancien directeur de campagne en 2012, porte-parole en 2008, un de ses plus proches donc, et candidat à un mandat local, bien il dit qu'il est fier de ce qu'il a fait avec Barack Obama. Mais j'ai beaucoup d'autres mentors, nous explique-t-il, et je m'entends très bien aussi avec des républicains. Vous avez aussi un élu du Sénat local. Lui, il était très fan de Barack Obama. Il nous dit qu'il l'a vu en 2008 pendant trois quarts d'heure en tête-à-tête, qu'il avait promis Barack Obama qu'il ferait tout pour augmenter le salaire minimum. Ben, cet homme-là, il dit « Je suis déçu, dans l'Iowa, le salaire minimum, il est à 7,50 $ de l'heure. » Aujourd'hui, personne ne vous dira, autrement dit, personne dans les démocrates ou presque ne vous dira qu'il faut que Barack Obama vienne faire campagne pour sauver ce siège républicain, ce siège démocrate au Sénat.
Oui, mais en même temps, ce n'est pas parce que Barack Obama n'est pas là physiquement que la campagne ne tourne pas complètement autour de lui et de son bilan.
Mais c'est vrai, c'est l'argument massu même des républicains. Un exemple, il y a quelques jours, Mitt Romney, le battu de 2012 chez les Républicains, était dans une réunion publique, par parenthèse, vous voyez bien, qui passe à peu près tous dans l'Iowa, sauf Obama. Et la grande phrase ce soir-là de Mitt Romney, c'était « Au début de son mandat, Barack Obama s'est excusé au nom de l'Amérique auprès du monde entier. Maintenant, il doit s'excuser auprès des Américains. » Dans la salle, les militants applaudissent, ils vous disent que leur pays n'est plus respecté. Ils vous parlent de la peur du groupe État islamique, de la peur maintenant du virus Ebola. Et Barack Obama un peu érigé en symbole d'une administration inefficace. Du coup, le candidat démocrate doit répéter chaque jour, c'est pas un bulletin Obama, vous allez mettre le 4 novembre, c'est un bulletin Bradley, ne vous trompez pas de vote. Et Clinton a dit à peu près la même chose au niveau national. Si vous voulez sanctionner le président actuel, eh bien c'est pas la bonne élection. Et d'ailleurs, les républicains même, ils ont conscience des limites de l'Obama bashing. Il y a un responsable dans l'Iowa qui me disait qu'il fallait se concentrer un peu sur les enjeux locaux. Hier soir, d'ailleurs, c'était le troisième et dernier débat. C'est comme au niveau national. Il y a trois débats avant un scrutin. Le nom de Barack Obama n'a presque pas été prononcé. Par les temps qui courent, Nicolas, les oreilles du président qui ne sifflent pas dans cette campagne, c'est presque une victoire.
Merci Frédéric Carbone, correspondant de France Inter aux États-Unis, en direct de l'Iowa. C'est l'heure de Partout ailleurs. Bonsoir Eric Velmire.
Bonsoir Nicolas.
Et ce soir, un vrai cloaque, la Méditerranée.
Et pourtant, cette Méditerranée, souvenez-vous, ces mythes, une eau claire, des rivages fleuris.
Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées.
Cette Méditerranée, ses postures alanguies érigées au rang de légende. Et encore, je vous épargne Méditerranéenne d'Hervé Villard. Méditerranéenne, son cœur te dit je t'aime. Sauf qu'en marge des prélassements balnéaires, l'actualité en Méditerranée est loin d'être bleue.
En Méditerranée, il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris. Comme autant de plaies vives.
Il casse l'ambiance, Moustaki. Mais c'est vrai que les guerres sur les rives du bassin, les noyades et les tragédies de l'immigration clandestine. Et puis, un sujet qui peut paraître anodin au regard des drames précités, de la souffrance des hommes, mais qui ne l'est pas, la pollution.
Oui, justement, il y a une expédition internationale qui a été menée pendant 7 mois dans 11 pays côtiers de la Méditerranée qui vient de rendre son rapport. Le rapport est alarmant, Eric. La Méditerranée atteint un seuil de pollution critique par le plastique.
On connaissait la pollution par les hydrocarbures, les dégazages sauvages. 30% des navires marchands, 20% des pétroliers de la planète passent par ici. Les métaux lourds, le zinc, le cuivre et le chrome qui continuent de se mélanger aux sédiments des fleuves comme le Rhône, le Pô ou l'Èbre pour être ensuite déversés en mer. Les phosphates et les nitrates qui prolifèrent. Pas de système de retraitement des eaux dans la moitié des villes de la rive sud, autant dire l'Afrique du Nord. Et enfin, les plastiques, 10% des déchets ménagers, mais 80% des débris retrouvés en Méditerranée. Les micro-déchets flottants, les plus dangereux, sont des fragments qui naviguent dans les 15 cm de la couche à la surface de l'eau. Au total, 250 milliards de micro-plastiques flottants. Sur les 16 000 km parcourus en mer par les voiliers de l'expédition MED, Méditerranée en danger, qu'importe le lieu où les filets étaient jetés, systématiquement, il ramenait des quantités de plastique importantes. Bruno Dumonté, chef de l'expédition MED, une expédition dont la fonction n'est pas seulement de quantifier le niveau de pollution, mais de rencontrer les différentes autorités des pays côtiers, le Nord comme le Sud, afin de les sensibiliser aux dangers encourus.
Comme ces déchets circulent et dérivent sur l'ensemble de la Méditerranée, il faut vraiment que ce soit l'ensemble des pays du littoral méditerranéen qui collaborent et qui s'approprient cette problématique.
En sachant que les mauvais élèves ne sont pas forcément ceux de la rive sud, hein. L'Italie n'est quand même pas...
Tout à fait, c'est vrai que pour être passé en Italie, effectivement, il y a certains endroits en Italie, dans le golfe de Gênes, où on s'est aperçu que le pourcentage de plancton, qui est la nourriture essentielle de la biodiversité marine, était représenté à 50% par rapport aux microplastiques qui étaient en quantité égale, à 50%. Donc vous imaginez que si on continue à ce rythme-là, par certains moments, on va se retrouver avec une bascule où à des endroits, il y aura peut-être plus de fragments de plastique que de plancton. Donc tout doucement, on court à la catastrophe écologique. C'est une vraie bombe à retardement si on ne met pas en place très rapidement des mesures, parce que la mer Méditerranée, c'est une mer semi-fermée. Il lui faut environ un siècle pour renouveler toute son eau. Et que si on ne met pas en place des mesures vraiment efficaces, on peut se poser des questions dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Si on ne réagit pas, tous ces microplastiques vont s'accumuler. Et à un moment donné, on arrivera à une situation qui va être irréversible.
D'autant que toute la chaîne alimentaire doit être touchée. Si les animaux, fruits de mer, confondent le plancton avec le plastique...
Tout à fait, voilà. Il y a un impact sur les ressources halieutiques parce qu'il y a certains poissons qui meurent d'occlusion intestinale parce que ces plastiques sont très coupants et ils disparaissent. Il est vrai qu'on ne mange pas l'estomac des poissons, généralement, ils restent dans l'estomac, mais ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il y a des polluants qui sont présents sur ces microplastiques. Ils ont la capacité d'absorber tous les polluants présents dans l'eau de mer et de relarguer aussi leurs polluants qu'ils ont, eux, les biphénols et tous ces types de polluants. Ces polluants passent dans les tissus.
Cette pollution est-elle visible ?
Eh bien non, elle est sournoise et relativement invisible parce que ces microplastiques, on peut les voir à l'œil nu à condition de les pêcher comme on le fait nous avec un mantatrol et ensuite les concentrer pour en faire des échantillons qui sont ensuite analysés. Mais quand vous êtes sur le pont d'un bateau et que vous promenez en mer, vous avez toujours l'impression que la mer est belle, est bleue, on aime bien se baigner, mais a priori, elle n'est pas vraiment visible. Donc d'où l'inquiétude parce qu'effectivement, on ne s'y intéresse pas trop parce qu'on ne les voit pas, ces microplastiques.
Ne jamais croire que la mer ou les océans digèrent tout.
Alors là, non, parce qu'en fin de compte, les plastiques, ils ont été inventés justement pour résister à tout et ne pas être dégradables. Donc, ils remplissent fort bien leur fonction. Et nous, ce n'est pas qu'on en a principalement quelque chose contre les plastiques. C'est que ce plastique, il n'a pas à être en mer. Donc, ce n'est pas sa place.
Ouais, l'une des solutions radicales, la plus radicale peut-être, pourrait être la suppression tout simplement du plastique.
Car le vrai plastique biodégradable n'existe pas encore. Supprimer le plastique est effectivement une solution radicale. L'Irlande a choisi cette voie. L'Union européenne réfléchit évidemment à une formule un peu plus consensuelle. Les sources de pollution les plus directes n'étant pas le plaisancier qui balance sa canette par-dessus bord, mais les fleuves et les systèmes qui guident les eaux usées des zones urbaines vers la mer. C'est donc tout l'appareil du traitement des déchets qui est à revisiter. Et pour illustrer le problème, comme le paraphrasait si bien Jean-Yann, tout le monde veut bien sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. C'est exactement ça. Autant dire que la route est longue, mais le temps est compté pour une Méditerranée réellement en danger.
Éric Valmire, merci.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et dans la fabrique du Nouveau Monde, ce soir, Dominique André, vous avez rencontré une self-made woman.
Ce soir, nous rencontrons une passionnariat qui ose. Elle s'appelle Evelyne Platnik-Cohen, un doc d'économie en poche, un métier de vendeuse et le chômage qui lui est tombé sur la tête. Il n'y avait à ses yeux qu'une seule solution pour s'en sortir, monter sa boîte. Elle fait partie de ceux qui considèrent que les échecs font aussi progresser. Evelyne Platnik-Cohen a monté la Booster Academy, un programme de formation intensif pour tous ceux qui veulent se lancer dans la vente, mais qui n'ont pas fait de grande école de commerce. Elle a été retenue pour faire partie de la délégation française du G20 des entrepreneurs. Depuis l'an dernier, elle s'est positionnée à l'international, en Afrique du Nord, où les jeunes sont touchés par le chômage en masse. Ce n'est pas que du business. Evelyne Platnik-Cohen a une idée en tête, développer les compétences de chacun. Je veux emmener tous ces jeunes vers plus de positif, nous dit-elle.
Vous entrez
On mesure votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va acheter les niveaux dont il a besoin. L'idée première, c'est qu'on a tous besoin de savoir vendre et que ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et puis certains moins jeunes aussi qui sont en reconversion professionnelle. On constate que beaucoup d'écoles aujourd'hui s'implantent dans tous les pays du monde. Donc l'éducation, et française aussi, arrive avec des concepts de Bac plus 3, Bac plus 5 et s'implantent partout dans le monde, des écoles d'ingénieurs partout. Tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas possibilité même intellectuellement de rentrer dans ces écoles-là, donc ça reste quand même très sélectif. On a un autre constat de marché aussi, c'est qu'on a énormément de nouveaux commerces, de nouvelles marques qui arrivent sur le marché, sur tous ces pays-là, avec des très belles marques. Vous avez Galeries Lafayette d'un côté, Zara de l'autre, etc., Sephora, qui se déploient dans le monde entier, qui ont besoin de cette jeunesse-là, qui n'est pas au niveau comportemental, technique de vente, etc., pour arriver. Et ce qui est assez intéressant dans notre modèle, c'est de nous dire, nous, ce qu'on veut, c'est accéder à cette jeunesse-là et leur donner la possibilité d'accéder à l'emploi, qui répondent également aux besoins de ces nouvelles enseignes qui sont à la fois du retail, mais aussi on voit de la vente, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire de la vente aux entreprises, des agents immobiliers, beaucoup qui se développent de plus en plus, parce qu'il y a des investissements qui se font dans ces pays-là, mais également des plateaux téléphones, on voit que c'est extrêmement externalisé. Donc on a besoin d'une jeunesse formée, d'un point de vue mental, comportemental et technique de vente. Et notre dispositif à nous, qui n'est pas un dispositif qualifiant, on va dire, mais plutôt certifiant, permet à toute cette jeunesse-là d'accéder à un emploi. Et donc, c'est notre vision à nous du monde. Et c'est comme ça que nous souhaitons pénétrer, en effet, tous ces pays-là.
Alors, ce n'est pas gratuit puisqu'il s'agit d'une formation professionnelle, mais c'est moins cher qu'une école de commerce dont les études peuvent durer 3, 4, 5 ans. Et puis surtout, c'est la formule d'accès qui est beaucoup plus facile. C'est en accès libre, il suffit de pousser la porte, d'être testé et en fonction du résultat de ce test, vous aurez une formation personnalisée.
Merci Dominique André. Le temps qu'il s'installe, Anthony Bélanger, dans quelques minutes, 18h55. Comme tous les vendredis, une histoire dans le monde, on refile à Berlin, The Seed.
Hey yo, well it's all about seed. Righteousness you must achieve.
Mein Boden zitterte, es wummerte Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Basso mal Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound ist in Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die AD ist den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Wir shaken, was wir haben bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde bei uns die Müller vor. Dammraum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke durchs Brandenburger Tor.
Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Bad Stein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Bad Stein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
Im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Fäden.
Die Massen sind ja Stars, hat sie niemand drum gebeten.
Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen. Heute lebe ich im Osten zwischen Blümchen und Tapeten. Kümmere mich nicht allzu sehr um Taler und Moneten. Baue hier und da einen Check, aber dafür ein Konkret.
Tout le monde en studio adore The Seed, Mathieu Aron et Anthony Bélanger. Salut Anthony, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Comme tous les vendredis, une histoire dans le monde. Roberto Saviano nous parlait hier soir de la cocaïne, des sommes d'argent sale qu'elle génère, de la violence qu'elle engendre aussi. La drogue, elle est à la une, mais pour d'autres raisons aux États-Unis.
Et oui, l'information est tombée ce matin. Le fils du vice-président Hunter Biden a été testé positif à la cocaïne. Il a donc été viré des Marines où il était réserviste. Une info en soi sans grand incident, sauf qu'elle a relancé le débat. Le débat sur la dépénalisation, voire la légalisation des drogues en général et du cannabis en particulier. Alors, on vient de le voir, début novembre, les États-Unis vont voter, et pas seulement pour renouveler une partie de leurs députés et sénateurs, ils vont aussi voter dans 7 États et au moins 17 villes, dont la capitale Washington, pour décider par référendum si oui ou non, ils veulent dépénaliser la consommation du cannabis, voire dans certains cas, carrément le légaliser.
Alors, quels sont les États concernés? C'est une question désintéressée, strictement journalistique.
Bon, alors, pour tout vous dire, il y en a partout. Vous pouvez voyager partout. Il y a l'Oregon, l'Alaska. Et oui, là-bas, en Alaska, il fait froid l'hiver. Hein. Le Maine, le Nouveau-Mexique, mais surtout le Michigan, la Floride et la Californie. Trois États très peuplés qui, à eux seuls, s'ils disaient oui, eh bien, changeraient entièrement la donne. Quant à Washington, imaginez un instant le symbole. Si la ville capitale des États-Unis dépénalisait la consommation et la possession personnelle de cannabis, c'est ce qui est en jeu là-bas. Et figurez-vous que les sondages sont très serrés.
Et il y a déjà des États qui ont légalisé le cannabis.
Bien sûr, c'était même un point chaud des dernières élections. Et à la surprise générale, le Colorado et l'État de Washington ont légalisé l'usage, la vente, la production de cannabis récréatif. C'est-à-dire le joint de monsieur tout le monde, en clair. Hein. Dans le Colorado, la mesure est même en vigueur depuis janvier. Autrement dit, Nicolas, on a les chiffres. Je vais vous les donner. Ah. D'abord, en 8 mois, il s'est ouvert à Denver et dans tout l'État un total de 240 coffee shops. Vous savez, comme à Amsterdam. Ensuite, les ventes n'ont cessé de grimper, 35 millions de dollars en août, c'est-à-dire plus 10% par rapport à juillet. Enfin, l'État du Colorado se frotte les mains. Et oui, depuis janvier, c'est 45 millions de dollars de taxes qui sont allés directement dans les caisses de l'État pour rénover les écoles, payer les profs et des équipements scolaires. Sans compter l'explosion du tourisme qui a rapporté plus de 20 millions de dollars de taxes. Et oui, parce qu'évidemment, tous les fumeurs se sont précipités à Denver. Il y a maintenant des cannabis tours, il y a même des hôtels cannabiques où fumer tranquille.
Et est-ce que ça pose des problèmes de délinquance ou de santé publique?
Alors oui, mais des problèmes totalement inattendus. Il n'y a quasiment plus de trafic illégal au Colorado. Pourquoi acheter son cannabis à un vendeur à la sauvette alors que le commerçant du coin vous le vend légalement? Par contre, les braquages de cannabistro, eux, se sont multipliés. Et oui, pour une raison très simple. Comme vous n'avez pas le droit de payer votre cannabis avec une carte de crédit, il faut payer cash, et c'est la loi, eh bien, les petits commerçants du cannabis se retrouvent des quantités ahurissantes de petites coupures en dollars et se font braquer. Quant à la santé publique, le vrai problème, ce sont les enfants. Et oui, on s'est rendu compte que pas mal d'entre eux confondent les cookies au chocolat de maman avec ceux de papa chargés, eux, en cannabis. Je vous assure, c'est vrai. Hein. Sans parler des bonbons et autres sucreries au cannabis qui sont vendus partout en ville. Alors, je vous rassure, il n'y a pas eu de victimes, juste des parents un peu effrayés et des enfants endormis ou agités, c'est selon. Et ça, c'est vrai, c'était aujourd'hui même. La police de Denver a dû lancer un avertissement aux familles en cette veille d'Halloween. Goûtez les bonbons avant d'en donner des poignées aux enfants.
Anthony Bélanger, merci. Moi, je vais reprendre mon guide des USA en attendant les élections de mi-mandat. Bonsoir Mathieu Aron.
Bonsoir Nicolas.
Comme tous les vendredis, secret d'info à 19h20. Ce soir, quel est le sujet?
Eh bien, à notre manière, on va essayer de renflouer le trou de la sécurité sociale. Jacques Monin a mené l'enquête et il va vous raconter l'incroyable histoire d'un médicament hors de prix. Il coûte en remboursement près d'un demi-milliard d'euros par an, alors qu'on pourrait en rembourser un autre 20 à 30 fois moins cher. Vous allez voir, c'est pour le moins édifiant. Et puis notre invité sera notre consoeur Violette Lazare, qui sort un livre très 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 bien documenté sur l'affaire Big Malion.
Merci Mathieu Aron, rendez-vous donc à 19h20. Il est 19h dans une minute.